progrès si deux ans. Hein.
Bravo, félicitations.
Bon, ben merci beaucoup. Voilà, s'ouvre la séance de questions. Si vous avez des questions à poser, que ce soit sur le film, enfin on peut échanger. Il y a des gens qui vont passer dans la salle avec des micros.
Salut Paul.
Enchanté.
Alors moi c'est la deuxième fois que je vois ce film. Donc il y a déjà toute une série de questions que je t'ai déjà posées et tu m'as déjà répondu.
Plus ou moins bien d'ailleurs.
Voilà. Mais ouais. Voilà, j'avais encore une question et une remarque, un avis. Ça se regarde bien une deuxième fois, d'abord très bien.
Merci.
J'ai vu plein de nouvelles choses. Et alors d'abord je vais commencer par la remarque. La remarque c'est... Parce que la première fois que je l'avais vu, peut-être que j'avais moins noté. Ça concerne aussi Delphine. C'est ce travail de montage hein, que je trouve vraiment très, très réussi, avec des contraintes qu'on imagine entre photos, films. Et c'est vrai que voilà, ça participe de beaucoup de cette aventure. Qui est vraiment agréable. Et en parlant d'aventure, justement, est-ce qu'il y a une autre aventure de programmer ?
Alors, dans l'ordre, pour les réponses. Donc, ouais, effectivement, sur la multiplicité des supports, il y a au moins trois supports vidéo différents qui ont d'ailleurs été utilisés avec pas toujours calibré de la même manière, pas toujours avec les mêmes objectifs. Donc ça a été un vrai sport. Je pense que Delphine pourra mieux en parler que moi là-dessus, d'assembler toutes ces différentes images, tous ces différents supports, toutes ces captations sonores qui sont pas des mêmes sources. Même si pour la grande majorité, elles ont toutes été faites sur place.
Bah oui, c'était une des grosses contraintes au début qu'on a eu à laquelle on a dû réfléchir. C'était effectivement différentes sources, différentes formes, passer du 16:9 au selfie, aux photos, et différentes qualités aussi, parce que tout le début, c'était des... Après, tu as eu un autre appareil photo, enfin un autre... Ouais, et puis comme le temps n'était pas le même, bon, dès qu'il y a de la plus de lumière et ça. Donc, mais ça a été donc une interrogation, mais comme toute contrainte, ça nous a permis aussi après de faire des choix. Et bon, c'est ce qu'on s'est dit là, c'est vrai qu'en le regardant dans cette belle salle et tout, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Et le fait de passer différents formats, on l'oublie assez vite. Au début, on se dit c'est un problème, et puis si on prend le parti pris en montage, on l'oublie, et après on n'est que dans l'histoire, quoi, essayer de faire au mieux pour que ça fonctionne. Mais ces différents formats, et en plus des formats, il y avait la contrainte aussi du son, parce que on avait pas tant de son à peu près correct que ça. Donc le son qu'on avait, il a dû un peu le nettoyer. Et puis on a fait après beaucoup de recherches pour avoir des sons authentiques et qui participent à l'immersion, en fait. Et donc c'est une contrainte, mais comme souvent, en fait, si on la dépasse, ça devient même intéressant de travailler avec ça. Voilà. Voilà pour... dans un premier temps pour... Mais bon, il y avait d'autres choses là où il fallait faire des choix, mais ça, c'est vrai que la toute première fois qu'on a regardé, on s'est dit comment on va mettre en place tout ça, quoi. C'était assez confus, mais bon, on a eu du temps et ça nous a permis de vraiment créer quelque chose. C'était vraiment de l'ordre de la création, quoi, le montage.
Et l'aventure, est-ce qu'il y a une prochaine aventure ? Ça, je ne sais pas encore. C'est pas prévu de manière immédiate. Bon, disons que me relancer dans une aventure en solitaire, je le ferai peut-être pas, parce que c'est quand même très très particulier et très difficile. en soi, peut-être plus que ce à quoi je m'attendais, et particulièrement dans un milieu qui n'est pas anthropisé, c'est-à-dire il y a une perte de repères que j'ai essayé de montrer dans le film, qui arrive finalement très très vite, parce qu'on pourrait se dire, ça va, j'ai la tête sur les épaules, au bout d'une semaine, je sais encore comment je m'appelle. Eh bien, ça n'est pas certain. Voilà, c'est un peu la conclusion de mon aventure. Et donc c'est très agréable en fait d'avoir un témoin dans sa vie. Je prends souvent l'exemple des écureuils d'ailleurs là-dessus, puisque les écureuils, donc par exemple ceux qu'on voit qui sont des écureuils des arbres, on va dire, pas les écureuils de terre que moi je mange, mais les écureuils des arbres, voilà, ils sont tout le temps en train de pousser des petits cris, et des cris qui en fait comme seule utilité, en tout cas c'est ce qui m'est apparu, de communiquer entre eux et de signaler leur présence. Donc simplement de vérifier qu'il y a bien des témoins de leur existence pas trop loin. Et je pense qu'en tant qu'humain, on fait que ça. Alors des fois on a des échanges un peu plus intéressants, peut-être que des cris courts et perçants, mais on fait ça souvent, on a besoin, et de se retrouver sans ces petits cris... De témoins de notre existence, on est très déstabilisé assez vite. Voilà. Donc, sans doute d'autres aventures, mais sous d'autres angles, sous d'autres formats. Oui, je vois qu'il y a une main levée au fond.
Moi, la question que j'avais, c'était juste... est-ce que tu as eu peur quand tu... Enfin, j'imagine que tu t'es perdu à des moments. Et ça, je voyais pas beaucoup. Et comment tu l'as vécu ces moments-là? Et c'est plus ça en fait. À chaque fois, on voit que tu
perdu géographiquement.
Ouais.
Alors.
Ou est-ce que t'étais juste super fort avec ta carte?
Exactement, la deuxième option. J'ai une carte, j'avais une carte, une boussole, et je suis accompagnateur en montagne, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de courses d'orientation dans ma vie. D'ailleurs, si vous avez envie de prendre de l'expérience sur le sujet, je vous laisse vous diriger vers le CAF à la sortie. Mais voilà, c'est très pratique pour s'orienter en montagne. Et donc, surtout en montagne, en fait, on peut facilement se repérer, parce que comme c'est vallonné, on voit vite les sommets, on peut utiliser une boussole pour savoir où on est sur la carte. En fait, moi, je ne me suis pas perdu. La difficulté, peut-être, c'est de trouver des passages. Et ça demande un peu plus d'expérience en montagne que juste de la théorie de carte. Puisque c'est se dire, en regardant le paysage, quel est mon chemin de progression. En sachant que bah, voilà, des fois, on tombe sur des gros tas d'arcos. Donc les arcos, c'est ou ce que j'appelle les arcos, mais qui en sont des cousins en fait, d'Amérique du Nord. C'est ces buissons en fait, qui sont taillés pour résister aux avalanches dans les pentes, donc des buissons qui sont en bois très souple et qui sont absolument impénétrables. Et donc ça, voilà, il s'agit de savoir un petit peu, d'avoir un peu l'instinct de où est-ce qu'ils poussent pour les éviter, un peu aussi de voir quels sont les terrains qu'on peut franchir et ceux qu'on peut pas franchir. D'ailleurs, il y a cette première erreur qui est le torrent, on ne peut pas franchir, par exemple. Donc voilà, en termes d'orientation, pas de problème. En termes de franchissement d'obstacles, je dirais, puisque c'est quand même, quand je dis 20 000 km² de zone sauvage, il faut s'imaginer que c'est trois fois le Maine-et-Loire, qui est parcouru en gros par deux, trois sentiers sur lesquels on ne peut pas aller en voiture ou en moto ou quoi que ce soit, et qui se referme en fait assez vite dès qu'il y a un incendie, puisque les rangers, donc, qui sont chargés de cet entretien, n'ont pas le droit de rentrer avec des tronçonneuses, par exemple. Donc s'il y a un arbre qui s'abat, il faut qu'il soit dégagé à la scie à main, processus long et fastidieux, et peu rémunéré, ce qui fait que finalement, c'est très très peu parcouru, et sur quelques sentiers principaux. Donc moi, par exemple, la vallée que je suis allé la chercher, parce que je savais qu'il n'y avait aucun sentier qui la parcourait. Donc, je me suis mis dedans aussi, forcément. Mais c'était l'objectif. Il y avait une autre question tout au fond, de quelqu'un qui avait levé la main.
Non, je suis désolé, ça fait deux fois qu'on vous pique votre question. Je vais aller vite. Bravo à tous les deux, c'est super beau, enfin, c'est magnifique, la réalisation et le montage. Paul, j'avais deux questions, s'il te plaît. Est-ce que tu avais pensé à l'avance la construction de la cabane en termes de résistance des matériaux, de poids? Est-ce que tu t'y as repris à plusieurs fois ou est-ce que c'est comme dans le film, direct, en une fois, ça marche du premier coup?
Ouais, vas-y.
Première question et la dernière, est-ce que tu as continué à jouer de la flûte?
Non, j'ai fini par casser ma flûte, fort heureusement, je pense, pour tout le monde. J'ai un piano chez moi qui évite de faire des fausses notes. Et pour la construction de la cabane, moi, je l'avais pas mal réfléchi, on va dire, je l'avais un peu construit dans ma tête. Après, une fois que je suis arrivé sur place, le gros enjeu, c'était où est-ce que j'allais construire cette fameuse cabane qui doit être absolument à l'identique que celui de mes rêves d'enfant, parce que sinon, je serais passé à côté de l'objectif. Et donc ça, bah, c'était assez marrant d'ailleurs. C'était un coucher de soleil, et en fait, au coucher de soleil, c'est une vallée qui est orientée vers l'ouest, enfin un cirque qui est dans une vallée qui est orientée vers l'ouest. Et du coup, on appelle bourrelet glaciaire, terme assez marrant, cette bosse qui retient le lac. Et en gros, quand le soleil est allé passer derrière ce bourrelet glaciaire, il restait que trois arbres dans le soleil. Et c'est dans ces trois pins-là que j'ai choisi de faire ma cabane, puisque je savais que j'allais pouvoir aller voir ces couchers de soleil, plus une vue sur le lac. Donc là, j'ai trouvé le bon spot. Après, non, je m'y suis pas repris plusieurs fois. Bon, j'ai déjà construit pas mal de cabanes quand j'étais petit, avec un ami d'ailleurs qui est dans la salle. Et voilà. Donc, j'ai réfléchi au fur et à mesure. J'ai fait pas mal de schémas sur mon journal de bord et ça a bien marché.
Bonjour Paul, heureux. Bonjour. Et du coup, merci beaucoup d'avoir mis des images sur ces endroits qui nous sont un petit peu interdits. On va dire ça comme ça. Ma question, elle était sur comment s'est passé le retour et le retour à la vie courante, parce que je te vois régulièrement. Et je me demandais de comment est-ce qu'on arrive à faire une transition entre un lieu aussi incroyable et le retour à la vie avec les autres humains. Et puis, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé est-ce que je rentre pour de vrai?
Oui. Alors, bon, moi, très concrètement, mon retour à la civilisation, il s'est passé relativement en douceur, puisque je suis redescendu, je suis retourné voir les cow-boys. Donc, je suis redescendu sur Terre, on va dire, assez doucement. Après, le retour à la civilisation, pour moi, en tout cas, il s'est très, très bien passé. Aussi parce que j'ai retrouvé la civilisation avec énormément de plaisir, et pas que pour le confort de la civilisation qu'on oublie assez vite, mais qui est quand même assez monumental. Souvent, on oublie ça, mais là, on est ce soir dans une salle de cinéma avec des micros qui communiquent et comment dire, tout ça a été conçu de la main de l'homme, quoi. C'est une vaste construction collective dans laquelle on vit tous les jours sans spécialement en mesurer l'anormalité au sens nature du terme, quoi. Voilà, donc ça, c'est, comment dire, retrouver le confort et retrouver les autres, surtout, qui était l'autre partie, puisqu'en fait, moi, je suis parti dans la nature un petit peu pour, on va dire, trouver ce qui était, trouver un peu une vérité sur l'homme, même si ça peut paraître prétentieux, on a parfois des grandes idées. Et bon, j'ai pas trouvé énormément de vérité, et surtout, moi, j'étais parti chercher en fait l'individu, qu'est-ce qui nous compose profondément en tant qu'individu. Et ce que j'ai trouvé finalement, c'était beaucoup plus les autres. Et c'était à quel point moi, En tant qu'individu, je me sens finalement essentiellement composé par les autres et à quel point la culture m'a complètement formé. Et je suis allé à la rencontre d'un animal et j'ai trouvé finalement un animal social, ce qui n'est pas si révolutionnaire que ça comme découverte, mais j'ai vraiment expérimenté ça assez profondément. Donc de retrouver à ma... De retrouver la société, c'était plutôt du bonheur. D'ailleurs, il y a quand j'étais chez les cow-boys, j'étais avec une mule qui s'appelait Pete, qui était une petite mule noire adorable, mais un petit peu nerveuse, qui m'a jeté par terre après 5 mètres en partant sur un galop foudroyant. Et je l'ai récupérée, je suis remontée dessus. Elle était particulièrement sympa, mais extrêmement grégaire. Et dès qu'elle se faisait devancer par le groupe de 20 mètres, ça la mettait dans une panique monumentale. Et je me suis dit, en fait, ça c'est moi. et je pense, voilà, on est assez grégaire, en tout cas, je le suis.
Déjà, merci beaucoup pour ce film. Je trouve qu'il était extrêmement sincère et c'était vraiment une belle réflexion. On a beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié voir tout ça en tout cas. Et j'avais une question qui, à l'inverse, était bassement et très terre à terre. C'était, on voit bien que la nourriture est un problème, que tu as eu des difficultés au début par rapport aux rations que tu avais prises. Et ma question était, est-ce que tu penses que sur le moyen terme, en étant bien établi là où tu étais, tu aurais pu réussir à te débrouiller pour trouver la nourriture nécessaire, ou est-ce que tu étais entièrement sur tes réserves?
Déjà merci pour ce premier commentaire sur la sincérité du film, puisque ça a été vraiment tout un travail avec Delphine, puisqu'en fait au bout d'un tournage improvisé, on se retrouve avec tout un tas d'images, en l'occurrence 14 heures de rush. Et puis derrière, il faut réussir à reconstruire le récit le plus sincèrement possible, en essayant de transmettre la bonne vibe, je dirais. Et ça, avec Delphine, c'est le fruit de beaucoup de discussions. Et je suis content que ça puisse toucher, je pense, le public. Pour ce qui est de vivre en solitaire dans la nature, alors déjà en solitaire, c'est quand même se mettre un bâton dans les roues, comme j'ai déjà dit. Et ensuite, donc oui, moi je suis parti, je suis monté là-haut donc en hiver. En hiver, je dirais que c'est très compliqué. Et en été, en fait, au fur et à mesure, donc je suis resté quand même là-haut pendant 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. De suite, pendant la phase de construction de cabane, je pêchais en moyenne 3 poissons par jour. C'était un peu mon ratio. Et sur ces 3 poissons que je mangeais bien volontiers, il se trouve que au fur et à mesure, je pêchais des poissons de plus en plus petits, et voire de moins en moins. Et c'était de plus en plus dur de venir réunir ces 3 poissons quotidiens. Et bien que j'ai fait le tour du lac et que j'ai commencé à écumer un peu tous les coins de pêche, quoi. Donc en fait, la conclusion, c'est que ce lac qui fait 400 mètres de diamètre, ça fait 16 hectares, je crois, hein, comme lac. Moi, unique humain, en 3 semaines, j'étais en train de le vider, quoi. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que les poissons sont devenus beaucoup plus intelligents et qu'ils en avaient un peu rien à faire de ma canne à pêche. Mais moi, j'ai tendance à penser que la première option est la plus vraie. Bon, c'est pas sûr. Et puis après, pour survivre, je dirais, tout seul, il y avait une autre option qui m'aurait permis de rester plus longtemps là-haut en été. Et ça aurait été de reposer un piège pour capturer un cerf. Et ça, j'avais pas spécialement envie de le faire, parce que, enfin, tu es des, comment dire, j'ai vraiment été confronté au fait de devoir être un prédateur, quoi. C'est-à-dire que moi, c'était pas du tout Je savais que j'allais devoir pêcher, mais je ne pensais pas que devoir vraiment piéger et chasser des animaux, des mammifères. Et ça, c'est assez brutal, surtout quand c'est quelque chose qu'on se retrouve à faire tous les jours. Par exemple, pour les petits écureuils de terre, j'en ai attrapé, mais tous les jours pendant au moins 2 semaines. Et faut les exécuter, quoi. Faut les tuer, faut les dépecer. Et c'est une opération brutale. Donc, qui nous confronte, je dirais, vraiment à notre condition d'animal, qui est on doit supprimer une vie pour garder la nôtre. Et ça, c'est une condition de survie assez brutale. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, on peut se permettre, grâce à l'agriculture, évidemment, de se passer de viande, par exemple. Simplement, quand dans la situation dans laquelle je me suis mis, ça, c'est pas envisageable. Vraiment, c'est ce dont je me suis aperçu. J'ai eu beau récolter énormément de plantes, énormément de racines, de bulbes, de tout ce qui me tombait sous la main. C'est quand on vit en extérieur, le nombre de calories à réunir est vraiment énorme, quoi. Vous voyez, les truites de 40 cm, par exemple, j'en mangeais 3 par jour, plus je mangeais du riz, des haricots rouges que j'avais emmenés. Je mangeais au moins, je pense, 3500 à 4000 calories par jour, quoi. Et j'ai pas grossi, quoi. Donc, je pense que vivre dans la nature en survivant vraiment uniquement avec... avec ce que la nature peut offrir, c'est compliqué et c'est peut-être même un peu illusoire.
Merci beaucoup.
Merci pour ta question.
Ok, bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai jamais vu ce genre de films alpins, etc. Donc c'était une grande première. Et au début, je me suis dit, bon, dans quoi je m'embarque? et c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit dans le premier commentaire, par rapport au fait que, enfin, il fallait faire avec ce que vous aviez au niveau des images, etc. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, oula, je sais pas si je vais apprécier ou des choses comme ça. Et en fait, on est vite capté par notamment l'objectif, le lien aussi avec l'enfance, aussi la spontanéité, les images, la sincérité, comme tu disais, aussi par rapport à être en face de situations où on n'a pas envie d'être. Et ça, je trouve ça super. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, donc là, on est au jour 1, au jour 2, au jour 30. Et en fait, après, on s'en fiche des jours. Et en fait, on est capté en fait par l'histoire. On a juste envie de savoir comment tu fais pour la cabane, comment tu vas faire par exemple pour faire les trous, pour faire le toit. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme des tuiles un peu. Donc, j'ai trouvé ça très très impressionnant et très captivant comme film. Donc, vraiment félicitations. Et sinon, j'avais pas vraiment de questions. Mais si j'avais une question quand même, c'est au niveau de comment tu as fait les cookies et comment tu as fait le brownie. Et est-ce que le brownie était vraiment cuit à l'intérieur?
Alors ça a été tout l'enjeu du montage. Au tout début, quand on a regardé les premières images aussi, on s'est dit, oulala, comment on va faire un pareil que toi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, il y avait beaucoup de choses où il y avait plus ou moins le point, enfin voilà, il y avait un peu de tout et on s'est dit bon. Et puis en réfléchissant, on a beaucoup discuté, ça a été notre grande chance et notre luxe, c'est qu'on avait du temps. On est tombé sur un moment où quand Paul a voulu faire le montage, moi j'étais dispo. Et on a vraiment pris le temps et tout le montage a été une vraie création, donc beaucoup d'échanges. Beaucoup d'essais, beaucoup de choses qu'on a faites qui, le lendemain, ne nous satisfaisaient plus. Donc, se permettre de se tromper, se permettre d'essayer. Et petit à petit, tisser à la fois un équilibre. C'était ça aussi l'enjeu. C'était l'équilibre entre l'aventure et puis tout l'intime, toutes ces réflexions intérieures. Donc, par l'image, par le son, grâce aux photos aussi. Donc il y a eu toute une approche comme ça sur comment arriver à faire un film où effectivement on est embarqué, on tient et surtout on arrive à exprimer ce que Paul désirait. Et c'est, moi je suis hyper heureuse de ce film parce que c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on a vraiment été jusqu'au bout de tout. Et là, en le voyant ce soir, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, surtout grand écran comme ça, c'est magnifique. Voilà, je trouve que toutes les petites astuces qu'on a trouvées au montage aussi servent à l'histoire et à cet équilibre vraiment du dehors, du dedans, parce qu'il y avait toute une première partie qui n'était pas évidente. On a mis beaucoup de temps avec la première partie, qui était justement tout l'intime et où ça ne va pas si bien que ça. Et donc, comment avancer en étant à la fois sincère, juste, sans être triste et chiant. Enfin, c'était, voilà, ça a été vraiment la construction. Pour moi, c'est une vraie création. Et le son et l'image et tous les effets, parce qu'il y a pas mal de petits effets qu'on voilà, qu'on voit pas spécialement, mais qui existent. Donc, ça a été notre échange, un échange avec Bernard aussi, donc le père de Paul, qui est réalisateur, avec qui j'ai travaillé longtemps. Et ça nous a permis de faire une œuvre que moi, je trouve très juste par rapport à ce que tu désirais faire. Et surtout, Paul a écrit un manuscrit, enfin, le manuscrit qu'on voit dans le film, donc qui existe vraiment, que moi, j'ai lu, qui est hyper beau. Moi, j'ai adoré lire ça. Je trouvais que c'était très brut. Et voilà, ça, il m'a beaucoup touchée et j'avais envie que le film soit à la hauteur aussi de ce manuscrit qui était vraiment ce que Paul exprimait de façon très intime. Et voilà, moi je suis assez contente parce que je trouve qu'il reflète bien ça. Et donc, ces histoires d'images, on les a très vite dépassées en réalité. Voilà.
Ouais, juste pour finir là-dessus, c'est vrai qu'au début, je pense que ça se ressent, mais à la fois pas du tout autant que c'était le cas. C'est-à-dire qu'on a construit tout un début en ayant des lacunes d'image très importantes. Hein. Il y a beaucoup de reconstructions où, avec des photos fixes où Delphine a rajouté des feux, par exemple, dessus, et puis hop, c'est bon, c'est de la vidéo. Mais il y a beaucoup de reconstructions comme ça pour pouvoir fabriquer ce début et coller à ce que effectivement à ce qui était aussi exprimé dans le manuscrit. Voilà. Et sur les gâteaux, les cookies. Ça, en fait, c'est la technique que je montre un petit peu dans le film, c'est-à-dire que, en fait, j'avais emmené une grosse casserole et une poêle qui rentrait parfaitement pour faire couvercle, et je pouvais donc cuire mes gâteaux en faisant une espèce de four improvisé, en mettant des braises au-dessus et en posant la casserole sur le feu. Et ça a très très bien marché. Je me rappelle plus des temps de cuisson des cookies, mais c'était autour de 5 minutes dans un sens, 5 minutes dans l'autre. Et ça marchait vraiment aussi bien qu'un four normal sans griller le fond. Donc voilà, incroyable, comme dit le film. Et c'était bon, ouais. Aussi, dernier détail, c'est que c'était bon. J'avais emmené les bons ingrédients. C'est pas du beurre, mais c'est de l'huile d'olive, mais ça marche quand même bien, si jamais.
J'y vais. Bonsoir, Paul. J'ai une question sur un thème qu'on n'a pas abordé, qui est la bobologie. Et moi, qui me taraude énormément, parce que je suis pas... Moi, après une demi-heure de bricolage, j'ai déjà une écharde. Donc, je voulais savoir, d'abord, que tu nous montres tes doigts. Je voudrais savoir combien tu as de doigts, parce que moi, ça m'inquiète. Et la deuxième chose, c'est... moi, j'étais terrorisé tout le temps. Non, j'ai pris énormément de plaisir, mais franchement, je me suis vraiment posé cette question. Comment on peut partir là-bas sans tomber malade, sans tomber tout court? Combien de fois tu n'as pas senti bien, parce que ça, on a un peu éludé ça, et j'arrive pas à croire qu'il n'y a pas des moments de terreur en fait dans tout ça.
Oui. Alors il y a eu des moments de peur évidemment, mais je dirais pas de terreur. C'est-à-dire que c'était surtout l'une des difficultés, c'était je dirais finalement la concentration. C'est-à-dire que le fait d'être extrêmement loin d'une possibilité de secours, ça fait que, comme vous le dites, la bobologie prend une importance démesurée. Le moindre petit problème, et c'est la fin de l'aventure, quoi. Et c'est vraiment, on se coupe un peu trop profondément, il y a besoin d'un point de suture, c'est la fin de l'aventure. On perd son couteau, on casse son panneau solaire, on se met un coup de hache dans le pied, enfin, c'est la fin de l'aventure. Et donc ça, c'était une difficulté, effectivement, et c'est peut-être, en tout cas, ce qu'il y avait de plus extrême dans cette aventure, puisqu'il n'y a pas de... On ne gravit pas de haut sommet, je fais pas des traversées monumentales avec des très très grandes distances. Par contre, l'engagement vraiment de cette expédition, c'est cet éloignement de la possibilité de secours qui fait que, en cas de problème, eh bien, c'est tout de suite un gros problème. Il y a finalement pas de petit problème. Et ça, c'était effectivement pas facile. C'est une angoisse plus qu'une terreur. C'est-à-dire, on se réveille pas un matin en se disant « Ah, mon Dieu !» On se fait pas extrêmement peur, mais on est toujours un petit peu angoissé en se disant « Faut que je reste concentré. Ma marge de manœuvre est extrêmement réduite. Ma marge d'erreur est quasiment inexistante. » Donc ça rapproche peut-être un peu du solo. Et je dirais que là-dessus, je me suis fait la réflexion qu'en fait, c'est la condition d'existence de tous les animaux sauvages qui, en fait, au moindre bobo, meurent. Et en fait, on a pas trop cette conception, nous, mais c'est une espèce de remise en jeu à chaque instant de son existence, avec la possibilité que le moindre petit problème, le fait de marcher sur un tronc pas comme il faut, puis de tomber sur le côté, de se tordre la cheville, eh bien, on meurt. Alors moi, j'avais des possibilités de sauvetage en ayant un appareil qui me permettait d'appeler au secours, on va dire, de pousser un bouton qui ferait un SOS avec potentiellement les secours des États-Unis, enfin les secours du Montana qui viendraient me chercher. Mais voilà, je dirais que c'était peut-être l'extrémité de cette aventure. Elle est là, elle est dans la... ouais, voilà, dans ce rapprochement, dans la remise en jeu permanente de son existence. Prise de risque. Enfin, bon, bref. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui, merci
ou
pour la sincérité. Oui, absolument, merci pour ta ça résonne. Sincérité, j'ai une dernière chose que j'ai complètement oubliée. C'est quoi cette idée de malade de faire du feu dans une cabane en bois?
Ouais, c'est une drôle d'idée. Ouais, ça c'était assez engagé. J'avais beaucoup réfléchi à comment je pourrais faire pour faire un feu justement dans une cabane en bois, ce qui est quand même un peu antinomique. Et en fait, c'est pour ça que je pensais au début faire une cheminée en pierre. Bon, en fait, la cabane n'aurait jamais supporté un tel poids. Et donc, je me suis rabattu sur amener des tuyaux de poêle et un bidon. Et en fait, bien sûr, c'est relativement précaire. J'allumerais pas un feu sans être dans la cabane, quoi. Ça aurait pas de... Enfin, ça serait une prise de risque inutile. Après, comment dire, c'est des zones qui sont à la fois très fragiles, enfin très, comment dire, dans lesquelles des incendies peuvent se déclarer très facilement. On le sait, il y a des méga-feux en permanence aux États-Unis. Simplement, ça dépend énormément de l'hygrométrie, quoi. Et donc, c'est-à-dire qu'en début d'été, le risque est finalement assez minime. D'ailleurs, on voit bien au début, allumer un feu, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Et en fait, au fur et à mesure, le feu devient de plus en plus facile à faire, avec un accroissement aussi forcément des risques incendies. Donc, bon, moi, j'ai sur ce feu dans les arbres, on était encore pas suffisamment sec pour que tout prenne feu n'importe comment. Et voilà, du coup, je me suis permis cette extravagance. Et par ailleurs, ça faisait aussi un peu partie, c'est-à-dire que pour moi, la cabane, c'est un peu le foyer. C'est l'idée de se faire une maison dans les arbres. Et une maison qui n'aurait pas de feu ou pas de possibilité de cuisiner, ça m'apparaissait comme à moitié réalisé. Donc je voulais vraiment pouvoir prendre mon café là-haut. Donc voilà, c'était l'objectif principal.
Je voulais juste te remercier parce que c'est pas n'importe quel texte que tu nous as servi. Et j'aurais juste un souhait, c'est que tu l'édites, que tu en fasses un fascicule et qu'on puisse éventuellement retrouver ce texte. Et éventuellement le film avec, d'ailleurs. En tout cas, moi, je suis preneuse. Voilà, merci.
Oui, bon, ben, merci beaucoup. Ouais, c'est un texte qui est basé sur le manuscrit et puis qui a été adapté pour permettre d'en faire une voix off. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment retrouver le film sur une plateforme ou quoi que ce soit, puisque pour l'instant, c'est la première phase de distribution où j'essaie de le communiquer à des festivals et puis de le diffuser. Donc, par exemple, il passera à Saint-Étienne. Le 15 mars, si jamais certains d'entre vous y seront. Sur les textes, non, aujourd'hui, il n'y a pas de transcription brute de ces textes. Je vous remercie pour le compliment. En revanche, peut-être que j'essaierai, dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, de publier le manuscrit dont sont issus ces textes et dans lequel il y en a quand même pas mal d'autres qui sont au moins tout aussi bons.
À moi. Merci pour la belle expérience. J'avais une question, mais qui va être plus pour Bernard que pour toi, mais peut-être que c'est toi qui vas répondre, j'en suis désolé. Et Bernard, c'est comment on fait pour laisser son fils partir 80 jours comme ça, au milieu de nulle part ?
Je laisse quelqu'un tendre le micro à Bernard.
Disons qu'au fur et à mesure où c'était possible, on suivait sur des cartes les lieux où il était. Et, bon, j'imaginais assez souvent, connaissant assez bien la montagne et les lieux, que bon, il y a des endroits où je me demandais où il allait passer, comment il allait passer, s'il allait passer. Voilà. Mais je crois que le mot qu'il a dit tout de suite, là, le mot concentration, je crois que c'est le mot clé, quoi. Il a été extrêmement concentré tout le temps, à la fois sur les lieux, sur l'itinéraire. Je crois qu'il a vécu vraiment en osmose d'une façon formidable avec les lieux, la nature, etc. Et c'est ce qui l'a sauvé.
Oui, d'ailleurs, peut-être ce sur quoi met le doigt mon père, je disais tout à l'heure, j'ai pas eu de terreur. Je pense aussi avoir eu quand même pas mal de chance, effectivement, et une chance que les lieux aient décidé quand même, les lieux et les animaux aient décidé quand même de m'accepter et de pas me garder, quoi. Vraiment, je suis ressorti de cette aventure avec une très très grande gratitude envers les lieux qui m'ont permis de vivre cette aventure.
Moi, j'avais une question sur tu as été très contraint pendant cette aventure sur les lois de la nature, enfin, quand tu as dépecé le renne, etc. Est-ce que tu avais aussi des lois de l'homme qui s'appliquaient? Tu disais les tronçonneuses étaient interdites. Est-ce que tu avais certaines choses que tu devais faire et qui t'ont peut-être rappelé à la civilisation?
Oui, alors, moi, initialement, j'avais prévu de partir dans un parc national qui s'appelle le parc national Glacier. Et en fait, j'ai été assez vite détourné de ce parc national par le cousin qui est garde-chasse dans l'Idaho, qui m'a dit que les parcs nationaux étaient extrêmement réglementés. Donc, en fait, les zones sauvages ne sont pas soumises aux mêmes réglementations et ont effectivement des réglementations, donc comme celle de ne pas entrer en moteur, mais des réglementations qui sont beaucoup plus souples. Donc pour ce qui est de la pêche, eh bien il suffit de s'acheter, il faut s'acheter une carte de pêche pour la saison, et on peut pêcher autant qu'on veut dans les lacs. Pour ce qui est de la chasse, eh bien il faut être en saison. Je l'étais pas forcément. Et pour ce qui est de, on va dire qu'il y a une philosophie globale dans ces zones sauvages qui est l'idée de ne pas laisser de traces derrière soi. Alors cette philosophie, il faut aussi comprendre d'où elle vient, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une certaine philosophie de la zone sauvage qui est qu'on veut garder un espace sauvage pour que l'homme puisse s'y réfugier. Et ça peut paraître contradictoire, mais c'est vraiment le rôle de ces espaces sauvages, et c'est de là que découle cette philosophie. C'est-à-dire qu'on réussit à créer des espaces, donc on les crée, qui sont créés de la main de l'homme, finalement, dans lesquels n'importe quel homme pourrait aller en ayant l'impression d'être le seul homme à jamais y avoir été. C'est l'idée de ces zones sauvages, donc qui est alimenté par plein de courants de pensée plus ou moins libertaires, et donc ils essaient toujours de à la fois permettre aux touristes de rentrer dans ces zones et à la fois les garder complètement dépourvus de traces. Disons que moi j'ai laissé une trace derrière moi puisque j'ai laissé la cabane, et à la fois comme j'ai laissé cette trace si loin de tout sentier, je suis quasiment certain que personne ne la verra jamais. Et donc, si je laisse une trace que personne ne voit jamais, eh bien, finalement, je suis dans les clous de la philosophie. Voilà pour ce qui était de répondre aux réglementations du lieu.
Merci.
Et par ailleurs, simplement pour cette cabane, elle est construite. C'est-à-dire que je suis assez persuadé que dans 5 ans, elle aura complètement disparu. Ce qui me laisse peu de temps pour y retourner, d'ailleurs.
Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film extraordinaire. Alors, je suis particulièrement fier de ma première question parce qu'elle est pour vous deux. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit au début, il y a une maladresse, il y a plein de... Enfin, à la fois dans le tournage et puis dans les moments qui sont pris, je pense que toi-même, tu dois être dégoûté de ne pas avoir pris plein de moments qui t'ont été chers. Et que petit à petit, en fait, ça se tuile plutôt bien. Alors, forcément, il y a la monteuse qui est derrière. Mais... Moi, ma théorie, c'est que tu as fini par t'attacher à cette caméra qui est devenue finalement la seule chose avec ton journal qui était une illustration de l'autre, qui te manquait énormément. Donc que ces deux médiums étaient vraiment pour toi le seul réconfort psychologique que tu avais, et que peut-être tu les as de plus en plus investis avec le temps. Parce que finalement, c'était la seule manière que tu avais de parler à quelqu'un.
Alors, je dirais que, en fait, quand même, je prendrais la question un peu différemment, c'est-à-dire que la caméra remplace quand même difficilement l'humain comme interface, puisqu'elle répond assez mal. Mais en revanche, ce qu'elle autorise, et je pense que c'est là-dessus que tu mets le doigt, c'est l'idée de pouvoir plus tard partager ce qu'on vit. Et effectivement, c'était vraiment ça qui a pris de plus en plus de place, c'est cette idée de vouloir partager ce que je vivais là-bas. C'est-à-dire qu'au début, je suis parti vraiment pour faire l'aventure pour moi, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, moi, c'était finalement peut-être pas l'intégralité de... Enfin, peut-être pas la chose qui avait le plus d'importance à mes yeux, finalement, et que ce qui avait de l'importance, c'était peut-être de pouvoir partager ces expériences fortes que j'étais en train de faire, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'intentionnellement, au fur et à mesure, j'ai pris des séquences. Comment ça s'est fait, en fait, c'est que tout simplement, je me suis dit, bon, bah, il me faut... Ça serait bien quand même qu'on me voit construire la cabane. Je pose ma caméra là, je fais mon activité, et puis au bout de 20 minutes, la caméra s'éteint, et j'ai un rush de 20 minutes dans lequel on me voit faire quelque chose. Et derrière, avec Delphine, on regarde le rush de 20 minutes, on essaie de trouver la petite 30 secondes qui est intéressante dessus, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais réagir.
Juste, c'est vrai que je pense qu'on sent quand même l'intention, parce que justement, quand ils montent dans l'arme pour positionner la caméra parfaitement et tout ça, t'aurais pas... on sent derrière qu'il y avait cette idée quand même d'en faire quelque chose, parce que sinon, c'est un effort supplémentaire d'aller en face. Voilà. Et puis aussi quand même, c'est vrai que ce rapport un peu comme à quelqu'un ou pas, mais en tout cas, c'est tous les selfies ou en tout cas et qui sont très drôles. Heureusement, en fait, moi je trouve que ça participe quand même à quelque chose dans le film. C'est il se regarde, il se prend en caméra et là il y a pas mal d'humour, c'est décalé et ça fait vraiment du bien ça. Je trouve que du coup on s'attache à toi, au-delà de l'aventure, au-delà de ses réflexions, parce que c'est vraiment drôle. Et je trouve que ça participe vraiment à pouvoir, nous-mêmes, quand on regarde, pas se projeter, mais être proche de lui. Il y a, tout d'un coup, il s'adresse à nous. En plus, tu dis, mesdames, messieurs, enfin, il y a tout un truc quand même que je pense que tu avais en tête. Alors, soit c'était un peu de l'ordre du jeu, soit c'était... C'est vrai, on n'en a pas parlé vraiment de ça. C'était de l'ordre intentionnel pour après le mettre dans le film. Mais un peu du youtubeur, quoi, quand même. Et ça, ça marche bien, je trouve. Au début, on s'est demandé, il y en a même certains, on s'est demandé si on les mettait. Quand il pleut, il dit, oh là, j'en ai marre et tout. Et en fait, si, c'était important de les mettre. Et c'est pareil que le reste, ça a été, c'est revenu un peu de façon régulière, comme les jours, comme les oiseaux, voilà, pour créer un rythme. Parce qu'il fallait trouver aussi des astuces vraiment de montage. Et ce rapport à l'image, là, moi, je trouvais qu'il était important au-delà des autres et de ces longues séquences que, oui, moi, j'aimais beaucoup et qu'on a essayé d'utiliser de façon assez un peu longue pour prendre le temps d'être avec lui un peu. Et donc, ces plans séquences, on s'est permis de mettre une certaine longueur tout en gardant une énergie, une sorte de vibration pour être toujours sur un rythme. Mais ça a permis aussi ces plans où il posait sa caméra pendant très longtemps d'être vraiment dans ses gestes et de garder une vraie longueur. Bon, même si c'est pas non plus, on s'endort pas, mais quand même, on s'est permis ça et on en a pas mal discuté. Mais en fait, ouais, ça fonctionne bien, je crois.
Et j'avais juste une deuxième question sur moi derrière ce film-là, J'ai été beaucoup marqué dans mon histoire personnelle par le film Into the Wild, que je vois en filigrane derrière ce film-là, mais est-ce que je projette complètement, ou est-ce qu'il y a aussi eu quelque chose dans ton histoire qui t'a relié à cette expérience, à ce film, et qui t'a fait prendre ces décisions-là?
Alors oui, c'est sûr que le filigrane est assez évident de... moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette aventure avant de partir, après être venu, m'ont toutes parlé de Into the Wild. Donc c'est marrant, ce film a quand même marqué les esprits. Bon, moi, pour ma part, je me rappelle avoir vu le film quand je devais avoir 10-11 ans. Et je me rappelle distinctement penser, ce mec m'a volé mon rêve, et j'étais révolté. Et je me suis rendu compte qu'on n'était jamais vraiment très propriétaire de ses rêves, et que si quelqu'un avait envie de faire le même, et bien il faisait le même. Mais je pense que, disons qu'originellement, mon rêve correspondait et plus né d'un film qui est La forêt d'émeraude de John Borman, et qui est un film qui se passe en fait dans la forêt amazonienne et qui est une immersion dans une tribu amérindienne, on va dire. Et donc c'est après le fil de la vie qui a fait que c'est quand même plus facile de survivre dans des paysages qui ressemblent à ceux d'Into the Wild que dans des paysages qui ressemblent à ceux de la forêt d'émeraude, quoi. Donc c'est, je dirais, c'était plus un choix pragmatique. Voilà. Après, bien sûr, pendant l'aventure, j'ai, par exemple, le fait de croiser le torrent et de se retrouver bloqué, je me suis dit, bon, je suis en train de copier là. on va peut-être prendre une ou deux dernières questions et puis.
Ouais. C'est pas une question, c'est une remarque. Ouais. Quand on a lancé ce projet au CAF avec Jean-Charles au départ, on a beaucoup beaucoup hésité. On ne connaissait pas, on savait pas ce que tu allais faire, on savait pas si on allait avoir du monde, on savait pas. Bon, ouais. Et puis on a fini par se lancer. Et pour finir, c'est une très 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 belle aventure. Ouais, personnellement, je suis séduit, complètement séduit par les images, par les paroles, par le tout, par le montage. Ouf, je suis dedans. Et un truc comme ça, je me dis, il faut être un peu exceptionnel pour faire un truc comme ça. Et puis, on a l'occasion de se croiser au CAF, au pied du mur d'escalade, il n'y a pas très très longtemps, à plusieurs reprises. Et je ne savais pas que devant moi, j'avais quelqu'un quand même qui était un peu exceptionnel. Merci,
c'est
Paul.
Beaucoup. Merci de m'avoir fait confiance.
Moi, j'ai de nouveau une question, mais forcément, après ce commentaire, on est toujours un peu moins bon parce que c'est vrai que c'était vraiment formidable. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais voilà. Moi, j'avais plus une question au niveau de la technique, donc pour vous deux, du son. Même si j'ai une idée de réponse, pourquoi ne pas avoir mis de musique ? Pourquoi ce choix, qui est un choix très ambitieux et très bien réussi? Et est-ce que vous avez eu l'aide d'un bruiteur, ou est-ce que vous avez vous-même refait du bruit, comme il y a dans les studios de cinéma? Ou est-ce que vraiment vous avez parfois réussi à, grâce à ce que tu avais déjà entendu, eu de certains bruits qui étaient vraiment les bons? Et voilà, tous ces éléments de recherche au niveau... du son et de la technique.
Ouais, alors on a utilisé beaucoup de sons directs qui des fois étaient des sons qui venaient d'ailleurs pour les remettre, pour trouver des sons d'ambiance en fait. Ensuite, il y a des sons par exemple qui sont trouvables, on va dire faire un son de torrent. On n'est pas obligé de faire appel à un bruiteur, on peut trouver ça. Et ensuite, il y a par exemple sur les oiseaux, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a souvent des photos d'oiseaux. Il y a une captation sonore en général excellente, qui est en fait une bibliothèque américaine de chants d'oiseaux. Et donc ça, je suis allé les chercher là-dedans. À savoir que ces chants d'oiseaux sont quand même correspondent à l'oiseau qu'on voit à l'image. Hein. C'est pas non plus n'importe quoi. Mais voilà, ça, typiquement, avoir un son d'oiseau très clair donc moi, je suis parti sans matériel de captation sonore, hein, finalement, puisque c'est vraiment un appareil photo réflexe pour de la photo animalière et un portable. Donc on est quand même un peu limité au niveau du son. On a eu pas mal de travail à faire, mais je pense qu'on s'est assez bien débrouillé. Après, il y a la voix off qu'on a enregistrée ensemble avec Delphine qui tient, je pense, un peu tout ça. Et après, il y a quelques sons directs qui ont été refaits a posteriori. Delphine, je ne sais pas si tu avais d'autres...
Non, les... les sons, bah, c'est ce qu'on a dit à un moment donné. Hein, on les a travaillés un peu, on a essayé de les nettoyer. Avec le parti pris que le vent, c'est souvent un son un peu pourri qui tape dans le micro. Bon, bah, c'est tout, on a juste baissé un peu, mais on a gardé cette idée de ce que lui pouvait ressentir ou entendre. Donc des sonothèques aussi, voilà, qu'on utilise dans les documentaires. Et la musique, non, vraiment pas, quoi, parce que c'était pas du tout approprié. Non. Il en a pratiquement pas été question. Si, à un moment, oui, mais enfin, moi, j'étais vraiment contre. À part la flûte, parce que moi, je trouvais ça drôle. C'est un petit côté un peu désuet, parce que t'es pas un très grand joueur, quoi, donc... Mais voilà, c'était un peu rigolo. Et puis, ça les contrecarrait aussi les exploits. Je trouve que c'est pas mal. Il y avait un peu d'humour. Et ça, voilà, c'était aussi dans le rythme de montage. Bon, qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après. Voilà, ça tombe pas comme ça non plus. Tout ça est travaillé. Donc, et la musique, si on a failli mettre une musique, parce que tu as mis une musique à un moment donné dans la cabane. Et en fait, c'était très étrange. Voilà, il a écouté une musique quand il faisait sa cabane. Moi, j'aimais bien, mais c'était ça se coupait, ça reprenait. C'était assez audacieux, un peu rock'n'roll. Et on s'est dit, peut-être, ça va pas fonctionner. Parce qu'il fallait tout de suite s'imaginer que c'était un son qu'il entendait, lui, sur place, et pas qu'on avait rajouté. Parce que ça n'aurait pas été possible, quoi. Donc, on a préféré l'enlever, en fait. C'est le seul truc qu'on a essayé. Mais non, sinon, oui, on aurait pu faire appel à un musicien ou un copain ou... Mais non, parce qu'on respectait l'environnement de Paul, quoi, en fait. Et la nature, bon, c'est déjà une musique en soi. Il n'y a pas besoin, je crois, d'en rajouter, quoi. Et surtout qu'on a joué beaucoup avec le son, le torrent, quelle introspection, quel intérieur, les voix et tout. Donc, il y avait déjà une musicalité. Enfin, je crois que c'est ça. On s'est dit, on préférait travailler là-dessus, travailler sur le son d'ambiance. Les volumes surtout, les enchaînements, comment tout ça tenait, et assurer pareil une continuité sonore grâce au son d'ambiance et à ce que tout ce que Paul entendait en extérieur, à l'intérieur, voilà, juste accentué par les volumes, pas amplifié ou pas.
Ouais, on voulait pas non plus casser une immersion, puisqu'en fait c'est quand même un peu... Ce film, je pense que s'il fonctionne, c'est de réussir à emmener le spectateur dans la nature, quoi. Et dans la nature, il n'y a pas de musique, quoi.
Donc comment tu as écouté de la musique à un moment? Tu t'es pas dit juste il n'y a plus de batterie, enfin...
Alors moi, j'avais un panneau solaire. Et ouais, en fait, c'est marrant, au début, j'écoutais pas du tout de musique. Et puis moi, j'avais quand même téléchargé 2-3 albums sur mon portable. Et vers la fin, j'écoutais de la musique. Et dans la cabane, typiquement. Et la musique, en l'occurrence, c'était Once Upon a Time in the West. Du coup, c'était assez marrant de le garder. Mais c'était un peu compliqué. Ça marchait pas bien. Et voilà. Ouais. Sinon, l'idée, c'était d'essayer de vous emmener dans la nature silencieuse. Enfin, animer d'autres bruits que nos bruits humains, quoi. Donc c'était quand même ça l'objectif. On a peut-être un peu fait le tour des questions. Ou en tout cas, on a déjà pas mal échangé.
Non, mais moi, ce n'est pas une question, ce n'est pas une conclusion non plus. J'ai entendu tout à l'heure Olivier, notre président du club, dire qu'il y avait eu des doutes sur la réussite, on peut dire, la mise en place et la réussite de cette soirée. Moi, non, jamais. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté, sincèrement, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer déjà il y a un moment. Je te connais aussi un petit peu par ton père, qui a l'habitude et sur lesquels vos gènes, il n'y a pas à dire, se manifestent régulièrement. Donc, c'est un grand, 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 grand merci vraiment, sans donner une conclusion, mais également remercier aussi le cinéma Les 400 coups, parce que c'est une... Ça se prête tout à fait à ce genre de... à ce type de soirée. Voilà.
Eh ben merci, merci à vous, merci au CAF pour votre confiance et merci au public d'être, d'être venu.
Paul, la semaine prochaine, serais-tu disponible pour venir fabriquer une cabane avec mes petits-enfants?
Ça coûte cher.